Radio, c'est Marceau. Marceau le midi.
Midi 53, quel plaisir ce matin j'avais de rentrer dans mon Jeep Wrangler Rubicon. Un essai que je faisais pour la belle gang de Bernière Auto. Ce Jeep-là, je l'ai encore dans ma tête. J'ai repris mon Wrangler régulier, deux portes, là. Mais il s'en est fallu de peu, Pascal.
Oh, t'as failli flancher.
Oui, mon cœur flanche. Mon cœur, je tombe en
trop
amour.
Souvent,
en fait, je tombe en amour à tous les jours. Je pense que c'est plus ça,
t'es
plus
un,
ça
t'es
mon
un grand
problème.
Grand tombeur, Yannick, mais un petit faiseur.
Ouais, t'as raison, je tombe souvent. Un très grand tombeur. Chérie, si t'écoutes ça, c'est pas ce que tu penses. Mathieu Thomasin, chroniqueur auto, salut.
Hey, bon midi, comment ça va?
Ça va très bien. T'as-tu des problèmes de stationnement ces temps-ci, Matt?
Hey, tabarouette, si tu veux m'enrager, là, fais exactement ce que je vais te décrire aujourd'hui. Bon, écoute, je suis en déplacement à Montréal et quand je me déplace avec le véhicule personnel, le mulet ou peu importe, même un véhicule qui ne m'appartient pas, ce que je fais, c'est que je me place le plus loin possible ou encore le côté d'une colonne, tu sais, dans des stationnements souterrains pour être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient se coller trop proche.
Ouais.
Et puis là, je m'assure d'être au pouce près dans les lignes de stationnement pour, écoute, m'assurer qu'il n'y a absolument rien qui arrive. Fait que je me dis, bon, ben, je vais être correct. Et imagine-toi donc, j'arrive ce matin, il y a quelqu'un qui est, attention, à un pouce de mon pare-choc en arrière. Je suis même pas capable d'ouvrir le coffre de mon véhicule. Et pourtant, il y avait des lignes, il était sur le bord d'une colonne, il pouvait se centrer. Mais non, on s'est dit, je vais aller l'accoter le plus loin possible. Tant qu'à moi, là, c'est peut-être moi qui est journaliste automobile puis qui me sens juste atteint par ça. Mais tant qu'à moi, si tu fais ça, t'as un envers les autres conducteurs automobiles et tu es juste un jeu me moi malheureusement. Là.
C'est, quoi la voilà. C'est quoi la distance idéale? La distance idéale qu'un automobiliste devrait avoir quand il se stationne? Ben, de un, moi je pense que la distance idéale, c'est quand tu respectes tes lignes.
Ben, premièrement, il faut que la porte du côté du voisin soit capable d'ouvrir sans que tu aies besoin tout simplement d'avoir une... Écoute, on va reprendre un peu la description, là. Quand tu ouvres ta portière, t'as-tu déjà remarqué, sauf pour les Jeeps, là, que t'as comme une demi-ouverture, hein? Tu pousses ta portière, il y a comme une petite planche là, qui accote et qui t'ouvre quand même assez correct pour que tu sois capable de sortir du véhicule sans te contorsionner. Ça, tant qu'à moi, si tu es à quelques pouces du véhicule, il n'y a pas de problématique. Mais c'est sûr que si tu viens te coller au point tel que tu dois faire la couleuvre pour sortir de la portière puis sans toucher l'autre véhicule, ça manque de respect. Et là, vous le savez, il y a des stationnements qui sont bien faits, des stationnements qui sont mal faits. Aujourd'hui, la mode est à quoi? De faire les stationnements le plus petit possible. Fait que quand tu arrives avec un camion, avec tes portes de quatre pieds, ben, devine quoi, tu te trouves extrêmement serré. Il y a un Costco qui a encore compris que faire des stationnements, c'est comme ça qu'on les fait avec une signalisation à terre au niveau des lignes qui est vraiment espacée. Ça, pis tant mieux. Parce qu'en plus, ben, dans ces endroits-là, des fois, on arrive avec le panier ou autre. Ça permet quand même d'avoir une certaine circulation quasiment entre les véhicules en faisant attention. Mais tu sais, je te le dis, Marceau, tant qu'à moi, c'est une preuve de respect envers les véhicules d'autrui. Sur Spotted Université Laval aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a posté un message d'un voisin de stationnement qui a ouvert la porte, bang, dans le char, puis qu'il est reparti tout simplement. La personne, elle était un petit peu somnolente dans son véhicule, puis elle est allée voir la conductrice, puis elle lui a dit « Hey, excuse-moi, t'as ouvert ta porte, puis ça a frappé dans mon véhicule. » On lui a répondu « C'est pas grave, ça brise rien. » Les jambes me scient quand j'entends ça.
Ah non, puis en même temps, je me vois déjà au garage en montrant la petite scratch au gars qui fait la peinture, puis qui me dit « Ça, mon homme, c'est 2500$!
» Écoute, quand on dit que ça brise rien, rappelez-vous que les véhicules sont plus fragiles que jamais aujourd'hui. Vous allez avoir un beau véhicule flambant neuf. Je vous le dis, là, faites juste passer vos petits derrière, vos foufounes de jeans là, sur le véhicule, puis vous allez voir des graphiques. Pas des bosses nécessairement, mais sachez que les peintures sont de plus en plus minces, de plus en plus fragiles. Mm-hmm. Ça en vaut aussi pour les portières, voire même avec les bosses que ça pourrait créer une fois. Double la porte. C'est une preuve de respect qui est nécessaire entre conducteurs, selon moi, au même type qu'on ne suit pas collé dans le derrière l'autre personne.
Puis collectivement, on doit faire attention parce que, tu sais, quand tu brises le bien d'autrui, cette personne-là est assurée, puis elle réclame, puis ben, à un moment donné, toi aussi, tu vas devoir augmenter tes assurances parce qu'il y a plein d'autres mondes qui ont réclamé. Tu sais, puis je lisais ce matin un article, je ne me rappelle pas c'était dans quel journal, mais il parlait des véhicules électriques qui font des accidents. ben, tu sais, juste quand ton bumper se fait arracher, ben, ça peut te coûter jusqu'à 18 000 $ là, tout remplacer, ce qu'il y a à remplacer sur ton véhicule électrique. Puis en plus, si tu te fais remorquer,
aucun doute, Luc.
Si tu te fais remorquer chez un garagiste qui n'est pas certifié, ben là, va falloir que tu le changes de place, ce véhicule-là, parce que c'est pour les Tesla, exemple, c'est pas tous les garagistes qui peuvent réparer les Tesla. Là.
Ben écoute, il y était même un temps où c'était des pneus bon, dans lesquels tu avais reçu une vis ou un clou Tesla parce qu'il y avait une conception assez particulière de celui-ci. Là.
Non, ça n'a pas de bon sens. Hey Matt, c'est en train de couper. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le son. Là. Normalement, ça va très bien.
Ouch!
Mais là, ça
attends coupe un petit peu.
Mais d'après moi, c'est parce que tu es
à Montréal. Je me déplace.
D'après moi, c'est parce que tu es à Montréal.
Je ne sais pas pourquoi, et je dois te dire que pourtant, mon indicatif réseau est au maximum présentement de ce temps-ci.
OK. Hey, tu as fait beaucoup jaser sur ta page Facebook « Question auto ». Ton titre, c'est « Vos pères sont riches en tabarouettes, les Québécois ». C'est 65 000 un char neuf maintenant en moyenne.
Écoute, ça, c'est une statistique d'auto-hebdo qui a été prise. Ce qu'ils font, c'est qu'ils accumulent la moyenne des véhicules qui sont à vendre sur leur page et ils l'affichent tout simplement. Là, il y en a qui m'ont dit « Ouais, mais là, tu as des Lamborghini, des Ferrari là-dessus. » Mais devine quoi, c'est quand même la réalité. Là, il n'y a pas 65 Ferrari à vendre là, du côté de Québec, là, on s'entend. Là. Et on se rend compte que le prix moyen des véhicules est en train encore d'exploser à la vitesse grand V. Et là, je vous le dis tout de suite, moi, j'ai de la misère à me voir payer présentement un véhicule d'au-dessus de 70 000 $ avec un tarif par mois aussi élevé lorsqu'on va oublier d'ajouter que ce soit l'entretien ou encore que ce soit un millier de pièces de rechange ou encore voire même un set de pneus ou un set de freins qu'on va devoir renouveler sur ce véhicule-là habituellement en dedans des 5 premières années. Là. Donc, encore une fois, c'est une démonstration que le prix des véhicules, malgré qu'on voit une panoplie d'annonces là, de surtout de Jeep, voire même des camions pleine grandeur qui semblent être, bon, qu'on semble ramener des promotions un peu plus intéressantes, c'est quand même un indicateur que les véhicules sont extrêmement chers présentement et que le marché est toujours cher. Si le marché du neuf est cher, le marché de l'usager est cher au grand bonheur de ces grands vendeurs-là. Là.
La vague de rabais sur les Jeep, est-ce qu'elle est entamée présentement?
Elle est entamée et devine quoi? Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit des promotions. Bon, on voit nouvellement des prix rabais, donc entre tant de 1000 de dollars de rabais. Ça peut varier entre 3 et 6 000. Et j'ai vu même des annonces ici du côté de Montréal dans lesquelles on commence à réoffrir des changements d'huile sur 5 ans, l'entreposage des pneus. On vous offre même des plans d'entretien gratuits. Et ça, qu'est-ce que ça me témoigne? C'est qu'on veut se débarrasser le plus rapidement des inventaires qu'on a dans la cour présentement. Est-ce que c'est d'autant plus accessible? La réponse, c'est que c'est non. C'est souvent sur des Jeeps qui, à l'origine, coûtent 78 000 $ mais qui sont quand même à 69 000 $ sur le prix du véhicule après. Donc, ce n'est pas nécessairement évident, encore une fois, pour le consommateur, d'absorber une aussi grosse facture. Mm-hmm. Et que dire de l'édition finale du Jeep Wrangler en édition avec le gros V8? Hey, écoute, on a dépassé le 125 000 $ pour un Jeep. Si on finance, on ajoute les taxes, ça n'a aucun sens. On est dans le prix du véhicule de luxe. Vous allez me dire, c'est une version nichée. Et moi, je vais vous répondre, hey, c'est toujours bien un Jeep Wrangler de A à Z autour de ça. Là. Donc, c'est une plateforme qui est connue. C'est une conception qui est connue. Puis, on n'a rien inventé ici, là, à part mettre un gros moteur V8 là-dedans.
Oui. Puis, tu sais, on parle de Jeep. Moi, j'ai essayé le Jeep Wrangler Rubicon qui est disponible chez Bernier Auto. Si vous voulez le voir, il est de toute beauté. Il est rouge. Je te dirais que, mettons que j'avais la chance entre un rouge et un noir, je prendrais exactement ce véhicule-là. Mais noir. Mais bref, j'ai passé quelques jours avec celui-là. Moi, j'ai un Wrangler deux portes, un petit Wrangler Sport, là, un peu surélevé. Là, j'ai essayé le Rubicon. C'est beaucoup plus stable, le Rubicon. Les sièges en cuir, le volant chauffant. Ça, c'est la première fois de ma vie que j'essayais le fameux volant chauffant dans un Jeep.
Est-ce qu'il était encore à roulette? Parce que moi, mon dernier Jeep était encore à roulette.
Mais dans mon Wrangler, ils sont à roulette. Oui. Dans celui-là, dans le Rubicon, il est automatique. Il est full automatique.
Est-ce qu'il y a plus de place? Parce que les deux, on peut comparer celui qui avait deux portes, on a eu le même. Ouais.
J'avais l'impression d'avoir une remorque en arrière tellement qu'il y a de la place. Là.
Okay, ça fait vraiment la différence.
Oui, pour les passagers arrière, parce que je me suis assis en arrière pour voir qu'est-ce que ça donnait. Tu as de la place pour tes jambes. Puis surtout, le coffre arrière, J'aurais pu rentrer.
Tu peux mettre en Costco?
Ben non, mais en fait, j'aurais pu rentrer mes trois poches de hockey. Les miennes plus les deux poches de hockey des gars. Ce qui fait une grosse différence avec moi, mon deux portes en arrière, il n'y a pratiquement pas de place. Mais mettons que je mets du lave-glace, là, trois cannes de lave-glace, puis merci, bonsoir, je peux plus rien rentrer. Là. Ouais. C'est vraiment un véhicule que j'ai aimé. Je pense que le boss, il commence à jouer avec mes sentiments. Là.
Il a touché droit au cœur, comme on dit. Loin de moi le désir de te reprendre, mais sache que le package Rubicon est quand même offert sur un modèle deux portes ou quatre portes. C'est sûr que lorsqu'on se pose la question pourquoi qu'un Jeep deux portes existe encore, c'est du côté de la maniabilité des fois hors route, mais on ne se le cachera pas, il est beaucoup plus commode d'avoir un genre de modèle Unlimited là, présentement comme tu as là, qui témoigne des quatre portes et de l'espace.
C'est immense.
Faut garder en tête. Ouais.
La stabilité, ben oui, la stabilité, Mathieu, ça n'a rien à voir avec mon deux portes. Là, celui-là, non. C'est un truck, c'est un gros truck. Il ne consomme pas tant. Je pensais qu'il allait consommer plus que le mien. Finalement, c'est le mien qui consomme plus. Mais c'est ça. Je pars, avec mon truck à moi, je pars dans le vent. Puis avec le Rubicon, je suis comme dans un gros véhicule qui est très, très, très confortable.
C'est sûr. Ben, en partant avec un package Rubicon, c'est au niveau des suspensions qui sont beaucoup plus adaptées hors route. Tu vas avoir même les barres stabilisatrices en avant que tu peux déconnecter si jamais tu t'aventures et tu veux plus de débattement. En même temps, les pneus, bon, ils ont beaucoup plus de flanc. Mais ça collabore au confort, surtout sur les routes québécoises qui sont ornées de cratères de Mars présentement. On s'en rend compte. Mais juste d'avoir aussi un empattement qui est mieux au niveau du véhicule, d'avoir plus de distance entre les roues vont offrir une meilleure stabilité, puis on n'aura pas l'impression de rebondir tout le temps comme un modèle deux portes qui devient un peu inconfortable, surtout les routes chaotiques du printemps qu'on a présentement.
Matt, tu voulais nous parler de Joe Biden?
Ben oui, oncle Joe qui est en train de changer les règles d'émission présentement aux États-Unis. Vous le savez, les États-Unis, c'est pas nécessairement, disons, les plus verts lorsque ça va venir le temps de vendre en tant que tel des véhicules électriques. Mais qu'est-ce qu'on va faire du côté des États-Unis? Ben, c'est qu'on va cibler encore plus une amélioration par rapport aux règles d'émission. Puis si je ne me trompe pas, c'est environ une cible de 50% de l'ensemble des véhicules du côté des États-Unis qui devraient être en 2032 électriques. Donc, tu vois, on est en train de suivre aussi cette mode-là qu'on a présentement de notre côté. Il ne faut pas oublier aussi aux États-Unis qu'il existe une panoplie de règles différentes par rapport aux véhicules, voire même selon l'État. Et il y a même dans certains États où est-ce qu'on va passer des tests d'émission au niveau de ces véhicules-là pour être sûr qu'ils ne polluent pas. Donc, si jamais tu as retiré ton catalyseur, si jamais tu as modifié ta ligne d'échappement ou autre, mais qu'est-ce qui arrive? C'est que si tu viens pour passer le test d'émission, bien, on retire ton véhicule tout simplement. Fait que d'avoir des objectifs aussi serrés venant d'un pays comme les États-Unis, c'est en train de montrer cependant qu'on commence à être sérieux. Est-ce que ça va, en passant du côté des États-Unis, on ne manquera pas d'action en 2024, là. Juste le combat Biden ainsi que notre ami Trump là, qui est présentement en train de se dérouler, c'est vraiment pas terminé. Il faut dire aussi qu'au du côté des États-Unis, juste l'année dernière, c'est seulement 8% des véhicules qui ont été vendus qui étaient électriques. Donc, est-ce que ça va être en resserrant cette vis-là, que ça va amener plus d'Américains à y penser, gardez en tête que le côté hydroélectrique n'est jamais aussi développé qu'ici présentement par rapport à un État américain. Quand je parle du côté hydroélectrique, ben je parle de la production d'énergie verte et non seulement le réseau de bornes électriques aussi qu'on a. Et quand on est allé essayer le Kia V9 en Arizona, les gens nous regardaient croche, on était dans le milieu d'un désert. Puis la première question de la personne a été « Ben, coudonc, comment vous allez faire pour vous recharger? Il n'y a absolument rien à rendre. » Puis là, on lui a dit « Ben non, c'est pas si pire que ça. » On clique. Effectivement, il n'y avait absolument rien d'environ 1h15 à la ronde pour nous recharger de manière efficace avec un véhicule électrique. Alors, donc,
tu traînes une génératrice, pas... Matt. Voyons donc, tu traînes une génératrice avec de l'essence dans le coffre.
Ben oui, écoute, mets du gaz suprême en plus dedans si tu veux. Là. Mais... Prends note que du côté américain, il ne faut pas oublier qu'ils ont même une accessibilité plus abordable du prix du véhicule moyen que nous. En passant, du côté américain, un véhicule électrique coûte en moyenne 53 500 US. On est loin du 60, 70, puis voire même 80 qu'on voit présentement. Là, il y en a qui vont dire hey, « Attends, là, il y a des véhicules électriques moins chers ». Bonne chance pour les avoir, bonne chance pour qu'ils soient disponibles immédiatement. Puis la dernière fois, je me suis bâti un modèle 3 de Tesla. Quand je le voulais, comme je voulais, là, ça montait justement à 80 000 bâtons. Il ne faut pas oublier aussi que le salaire américain est à 59 000 $ de moyen, là. Donc, c'est quand même un petit peu plus élevé là, présentement qu'on a de notre côté. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va naître au niveau justement de ces nouveaux objectifs-là qui sont très intéressants. Est-ce que ça va tenir dans la guerre là, lorsqu'on voit l'élection future? Ça va être encore le dossier qui va être beaucoup plus intéressant.
On termine avec ton essai de la semaine, Mathieu Thomassin. Hyundai Santa Fe, comment l'as-tu trouvé? Puis est-ce que ça va revenir à la mode, l'Hyundai Santa Fe?
Et tabarouette de tabarouette. Bon, premièrement, l'extérieur, là, j'entends tout le monde crier au scandale. C'est une boîte roulante, effectivement. C'est une grosse boîte carrée. On est parti d'un style qui était vraiment très partagé dans les premières générations et on se rend là. Moi, je dois avouer que je déteste pas, surtout quand tu le regardes en vrai. Cependant, c'est totalement différent de la version précédente. Il y en a qui le comparent au Land Rover Defender. J'ai mis ça côte à côte, moyen. Mais lorsqu'on parle de Ford Flex au travers du temps qui a connu une popularité, c'est sûr que les ressemblances sont assez impressionnantes. On a une obsession pour les haches au niveau du design. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on a une poignée sur le côté pour monter sur le toit. Donc, on a une possibilité de rentrer sa main à l'intérieur même donc du pilier du véhicule. Puis il y a vraiment une belle petite plaque qui me donne quand même une accessibilité. Ça prend rien que les Coréens pour penser à ça. Et à l'intérieur, ben maintenant, on est rendu en trois rangées. Ça reste un 7 ou 6 places. Mais encore une fois, là, on reconnaît le volant du Defender. Ça, je vous le donne. Motorisation, 2,5 litres turbo avec 277 chevaux et 311 livres-pieds de couple. On a retouché la transmission ainsi que le mode de traction intégrale. On va être capable de remorquer jusqu'à 4500 livres avec un modèle qu'on appelle XRT qui se veut un peu plus en route. Mais devinez quoi? Le Hyundai Santa Fe va être offert aussi en version hybride avec un moteur 1.6 turbo. Ça, c'est pas celui-là qu'on a mis à l'essai, mais cependant, je m'attends quand même à des bons chiffres là, du côté consommation d'essence. Puis, du côté comportement routier, c'est pas le plus athlétique, mais le mot qui rayonne, c'est confort, 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 et voire même technologie et utilité, ce dans quoi vraiment le Santa Fe s'est toujours démarqué. Le prix d'un modèle de base qu'on va financer sur 60 mois, si on va sur le site, c'est 67 000 $. Cependant, Hyundai nous promet que les versions hybrides vont être plus abordables, mais c'est sûr que si tu veux te gâter avec une version calligraphie, avec une peinture mât, financer au bout de la ligne, c'est au-dessus de 67 000 $. Donc, c'est quand même assez cher. Mais du côté des plus, encore une fois, le côté smooth, le côté confortable au niveau justement lorsque tu vas te promener avec le véhicule. Le style que j'aime bien, la traction intégrale de base, beaucoup d'équipements de base. Et je dois avouer qu'on réussit à créer toujours quelque chose du côté de Hyundai qui est unique, ça on adore. Puis pour les fans de hockey, il y a une édition spéciale de la Ligue nationale de hockey. Vous allez pouvoir voir le logo de votre équipe va être intégré au seuil de porte, donc à la commande. Ouais, si vous voulez montrer que les Canadiens sont pourris au point tel qu'à chaque fois que vous ouvrez votre porte, vous voyez le signe à terre, ben allez-y, vous pourrez le faire. Sinon, c'est vraiment l'ensemble des équipes de la Ligue nationale de hockey qui est disponible. C'est une version clin d'œil, mais ça permet d'accéder à la version hybride avec tout l'équipement d'une version plus équipée. Donc, ils ont bien joué leur carte Hyundai pour se démarquer encore une fois. Et on doit avouer que ça, ils sont capables de le faire. C'est très intéressant côté conduite aussi, confort de Santa Fe.
Est-ce qu'ils ont la fameuse option du volant gainé en cuir?
Hey, c'est même plus le volant gainé de cuir. Hey, j'en rajoute une couche. Ils ont ajouté quelque chose à l'intérieur de très spécial. C'est une décontamination de lumière UV dans laquelle tu peux mettre tes gants, tes masques, et ainsi de suite.
Ah ouais.
Puis écoute, tu pèses sur un bouton, puis bon, de la lumière va tout enlever, les petites bactéries, puis ainsi de suite. Puis là, on se regardait tout en disant, coudonc, qui a besoin de ça ici? Mais dis-toi que c'est la mode, là. Ailleurs dans le monde, ça, c'est quelque chose qui est connu, c'est quelque chose qui est mis en place. Puis c'est peut-être pour ça aussi que quand tu vas au Japon, ben quand les gens ont une grippe, ils ont plus de respect, des fois, à faire attention. Mais il faudrait pas non plus tomber dans l'extrémisme là, avec ça. Fait qu'il y a quand même un clin d'œil à des trucs originaux qu'on trouve à l'intérieur des véhicules coréens.
Matt, comment on fait pour te voir, t'entendre et te lire?
Ah, toujours par Facebook sur Question Auto. Donc, vous pouvez aller voir directement notre page. Plein de trucs intéressants, de nouvelles. Mais non seulement le dernier vidéo qu'on a fait, on a essayé le pneu Toyo Celsius 2 sur notre chaîne YouTube. C'est un pneu qui arbore le logo 4 saisons. Donc, on peut rouler en été comme en hiver. Puis là, la question, c'est-tu vraiment bon en hiver, ces pneus-là? Ben, allez voir, on a fait des excellentes améliorations. Toyo se démarque et je dois avouer que moi-même, j'ai été surpris. mais ça reste que faut garder un bémol. C'est pas fait pour la glace noire, puis c'est pas fait pour une grosse tempête. Mais entre-temps, avec un hiver comme on a eu cette année, je suis capable de se débrouiller avec un pneu comme ça.
Matt, c'est toujours un plaisir.
Plaisir. Salut,
bye. Salut, bye-bye. Mathieu Thomassin, chroniqueur auto à qui on aime jaser chaque jeudi. Donc, chaque semaine, les amis. Yes. Toujours intéressant. 418-971-101, s'il se passe quelque chose sur la route. Nous, on s'en va en musique, les amis. On va s'amuser un peu. Our Lady Peace, Superman's Dead. Do you-